when they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy.
Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Charlotte. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Enregistrement, CVRP. J'ai le cerveau constamment occupé et mon travail me prend beaucoup de temps. Ils s'approchent tous les deux de la sortie. Bonsoir François et merci pour la soirée. Ce n'est rien Marc, tu peux venir me voir quand tu veux. Marc ouvre la porte et sort de l'appartement. Il se retourne, fait un signe de main à son ami et descend les escaliers. François le regarde descendre. Marc est grand, mince, les cheveux épais, peignés en arrière. Ils sont gris. Son visage est maigre mais pas osseux. Il a une fine moustache gris et des yeux bleus. Il est habillé d'un costume marine. Il sort de l'allée. Il est 22h, nous sommes samedi 3 juin, la rue de la République est encore pleine de monde. Il se dirige rue Vendôme. Arrive à son immeuble. C'est un immeuble de 5 étages cossu. Il prend ses clés pour ouvrir la porte de l'allée et entre. Il prend l'ascenseur pour le 5e étage. Sort de l'ascenseur. sa surprise de trouver assis sur son paillasson un jeune homme habillé d'un blouson de cuir noir et d'un jean marine. Il est blond. « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Le jeune se redresse. « Bonjour, vous êtes Marc ?»«
Oui. »«
Je suis Guillaume. »«
Guillaume ?»«
Oui, Guillaume. » Et le jeune s'évanouit. Marc se penche vers lui, lui tape les joues. John ouvre les yeux.
« Ça va mieux? Qu'est-ce que vous avez ?»«
Rien, j'ai pas mangé depuis 2 jours. »
Marc se redresse et ouvre la porte de son appartement. Il penche vers le jeune.
« Vous pouvez vous relever ?»«
Oui. »
Le jeune se relève. Le soutien pour le faire marcher et ils entrent dans l'appartement. Conduit dans le salon et le fait asseoir sur le divan.
Merci.
Ce n'est rien. Attendez, je vais vous chercher à manger. Je crois avoir un peu de foie gras et du pain. Cela vous va ?
Oui.
Marc va à la cuisine chercher dans le réfrigérateur le foie gras. Pendant ce temps, Guillaume regarde autour de lui. L'appartement est très cossu et clair. Le salon est meublé en meubles Louis XIV. Marc revient avec un plateau. Le dépose sur la table basse qui se trouve devant Guillaume. Voit sur le plateau une assiette avec du foie gras, du pain, un verre et une carafe d'eau. Marc s'assoit à côté de lui.
Mangez, ne vous gênez pas.
C'est ce que fait Guillaume. Il mange avec un peu de retenue. La présence de Marc et le décor le gênent.
Vous allez me dire qui vous êtes maintenant.
Je suis Guillaume.
Ma mère, c'est Charlotte Loisière.
Votre fils, Guillaume.
Marc met quelque temps pour se remettre.
Charlotte Loisière et tu es son fils? Qui me le prouve?
J'ai 18 ans et je suis né à Montmartre. Et puis tenez, j'ai la lettre de ma mère.
Il sort de sa poche, de son blouson, une enveloppe. Attend à Marc qui l'ouvre et la lit.
Dit simplement qu'elle confiait son fils à ses soins et qu'il fallait lui trouver du travail.
Pour qu'il a lu la lettre, ou plutôt le mot.
Qu'est devenue ta mère ?
Elle est morte il y a de cela un mois.
De quoi est-elle morte ?
Crise cardiaque. Elle travaillait trop et puis elle se faisait beaucoup de soucis pour mon avenir.
Vous avez vécu de quoi ?
Elle était couturière dans un petit village à 50 km de Lyon, du côté de Grenoble.
Guillaume avale la dernière bouffée.
T'as encore faim ?
Non, merci.
Que comptes-tu faire à Lyon ?
Ma mère m'avait dit que vous pouviez m'aider pour trouver du travail.
Et tu sais quoi faire ?
J'ai appris un peu de comptabilité.
Marc regarde sa montre. Il est 24 heures.
Je crois qu'il est temps de nous coucher.
Pour cette nuit, tu coucheras sur le divan. Charlotte, Charlotte, cette petite bonne femme, j'avais, tiens, son âge à lui, oui, 18 ans. Elle habitait dans le même immeuble que ceux de mes parents. Ah là là, à cette époque-là, j'étais épris de toutes les femmes que je rencontrais. M'arrivait de croiser une femme ou une jeune fille qui me plaise pour que je la suive jusqu'à chez elle. Je n'osais pas leur parler, mais il fallait que j'aille après elle. Quelquefois, j'en rencontrais qui était accompagné d'un homme, et je ne sais pourquoi, mais j'étais jaloux de cet homme. Pourtant, je ne connaissais pas la fille. Charlotte. Charlotte. Elle habitait au deuxième étage au-dessus de chez mes parents. Je la rencontrais souvent dans les escaliers. Elle avait dans les 21 ans et toujours habillée d'une façon fort élégante, peut-être un peu trop voyante. Mais pour moi, elle représentait avec ses petits tailleurs et ses robes la finité même. Elle était un peu plus petite que moi, mince, avec des formes. Ses yeux, même baissés, avaient un côté coquin, de beaux yeux bleus profonds, une bouche sensuelle et des cheveux blonds, cendrés qui ondulent. Plus de sa personne se dégageait un parfum envoûtant. Chaque fois que je la croisais dans les escaliers, je baissais les yeux. Mais elle me regardait les yeux grands ouverts. Un jour, alors que je descendais, je la croisais qui montait en courant.
Arrêtez, arrêtez! Donnez-moi votre nom!
Lorsque nous nous sommes croisés, elle me prend par le bras, met son doigt à la bouche et m'entraîne dans un petit renforcement du palier. Restons là l'un contre l'autre. L'homme passe devant nous sans nous voir. Sourit, puis devient sérieuse. M'enlace et m'embrasse sur les lèvres. Ce baiser était pour moi mon premier baiser. Il était d'une force, d'une puissance telle que je faillis défaillir. Tant qu'elle m'embrassait, j'entendais l'homme qui descendait les escaliers en criant sa rage contre Charlotte.
« Charlotte, la salope, la salope !»
Fois que le baiser était fini, elle me prit la main. « Viens !» Nous sommes allés chez elle. Elle logeait un petit deux pièces cuisine très coquet et féminin. Il était décoré que seules les femmes savent le faire, avec des poupées, des chapeaux de paille, des fleurs, des tableaux. Les murs étaient tapissés de jute. Les meubles étaient en aulne. L'on aurait dit une maison de poupées. J'étais extrêmement troublé et tendu de me trouver pour la première fois seul entre quatre murs avec une femme. Je ne savais que faire. Elle m'aida à enlever mon manteau. Puis, elle se plaqua contre moi et m'embrassa goulûment. J'étais en sueur et bandais fortement. Elle se dégagea, me prit la main et me mena dans sa chambre. Elle s'allongea sur le lit. Tendit les bras et me dit « Viens ». Je suis venu et je me suis allongé auprès d'elle. J'étais en sueur, j'avais les mains qui tremblaient. Elle se plaqua contre moi pour que je l'embrasse. Elle sentait ses seins fermes contre moi. Je bandais tellement que ça me faisait un mal terrible. Alors, elle se dégagea, enleva sa robe en un tour de main. Elle était nue dessous. Je me déshabillais en vitesse. Moi nu, je me sentais tout honteux, mais elle me guida, car c'était la première fois. Chez moi 2 heures plus tard, n'ayant qu'une seule envie, celle d'être seul et de penser à tout ça. Pendant 2 semaines, je ne l'ai pas revu.
Pourtant, je détestais ses allées et venues.
Lorsque je l'ai revue, nous sommes montés chez elle et nous avons refait l'amour. Nous avons fait connaissance. Je m'appelle Charlotte, c'est mon père qui m'a payé cet appartement parce que je ne m'entendais pas avec un marâtre. Mon père est avocat, je poursuis mes études pour être comme lui. Enfin, voilà, c'est tout simple, tu vois. Et toi?
Moi aussi c'est simple. J'ai 18 ans, je vis chez mes parents, comme tu le sais. Plus tard, je veux être prof de philo.
Voilà, tu sais tout. J'attends d'être grand, beau et fort pour pouvoir vivre de mes propres ailes.
Et tes parents, qu'est-ce qu'ils font?
Ma mère est dentiste et mon père est dans les finances.
Nous avons pris l'habitude de nous voir très souvent. J'étais pris par cette belle femme. Ce n'était pas que le physique que j'aimais en elle, mais cette liberté qu'elle avait de se conduire dans la vie, sa frivolité, qui était pour moi la chose la plus féminine qui soit.
La liaison avec Charlotte se faisait en cachette de tous. J'allais surtout la voir en rentrant de l'école. À cette heure-là, mes parents n'étaient pas encore entrés. Nous faisions l'amour avec fougue et acharnement.
Entre les deux, nous écoutions les disques.
Le temps passait ainsi. Je l'aimais de plus en plus. Un soir, je me demandais si elle m'aimait vraiment. Car pour moi, elle était devenue le centre de ma vie, ma chose. M'aime-t-elle ou aime-t-elle ce que je lui apporte? J'essayais de voir, d'après ses gestes, ses phrases, ce que je représentais vraiment pour elle. Quelquefois, je la voyais insouciante, ne faisant guère attention à moi.
me faisait le plus de peine, c'est lorsque je lui disais que je ne pouvais venir le lendemain. Cela ne lui faisait rien. Semaines, les mois passaient ainsi. Un jour, c'est elle qui me dit que je ne pouvais pas venir la voir. Je lui demandais pourquoi. Elle ne me répondait pas. Alors je devins fou de rage et me mis à me rouler à par terre. Comme un déchaîné, elle se pencha, me donna deux gifles. Elle dit de partir, de revenir que lorsque j'irai mieux. Partait. Mais j'étais décidé de surveiller les allées et venues de son appartement. C'est ce que je fis le lendemain. À chaque fois que j'entendais l'ascenseur ou montaient les gens les escaliers, je sortais voir. Mais ce jour-là, je ne vis personne. Le lendemain, j'allais la voir et m'excusais. Tout fut oublié. Pour le moment, en tout cas. Mais au fil des jours, je devenais soupçonneux. Je ne disais rien, mais j'observais tout. Les moindres objets, le moindre geste étaient critiqués. Je faisais cela en silence, tout en lui faisant l'amour. Un jour, elle me dit qu'elle ne pouvait pas me recevoir. Je ne dis rien et me mis sous mes gardes en l'observant. Ce jour-là, j'ai vu monter chez elle un vieil homme à cheveux blancs. Il devait avoir dans les 60 ans. Puisque la porte de son appartement s'est refermée derrière lui. Je devins si jaloux que je ne savais pas ce que je faisais. Je montais à l'étage de Charlotte. Et là, je sonnais à sa porte. Pas de réponse. Je recommençais avec de grands coups de pied. La porte s'ouvrit enfin. Elle était livide, telle une robe de chambre à décolleté, rouge. Devant cette impression, je devins penaud. Elle me prit par le bras et me fit rentrer chez elle. Vieux monsieur vint vers nous. Elle était rouge de honte. Elle me dit, les mains croisées sur sa poitrine, « Qu'est-ce que ces façons ?»«
Qui est-ce ?»«
Rien, chérie, c'est un voisin qui est un peu énervé. »
Vous avez de drôles de voisins.
Il s'approche d'elle. Mis les mains sur ses épaules. J'étais effondré. Tout tournait. Mes jambes ne me tenaient plus. Il lui dit.
Dois-je partir?
Non, restez. Il va s'en aller maintenant, il a compris. Elle fit un pas. Ouvrit la porte. Et je sortais. Rentrer chez moi effondré, il n'y avait plus rien à faire, tout était dit, fait. Jour après, elle déménageait. J'assistais pas à son déménagement qui se passait durant les heures de cours, mais en rentrant dans l'immeuble, j'appris par la concierge qui en discutait avec une locataire. Elle finit sa discussion par ceci.
Je suis bien heureuse qu'elle soit partie. Si vous saviez tous les hommes qu'elle recevait chez elle.
Le temps passait, mais au cours des années, je gardais toujours dans mon corps l'amertume de mon premier amour. Après son départ, je reçus au milieu de mon courrier une lettre de Charlotte. J'étais dans la détresse avec un enfant de moi et demandais de l'aide. Jetais la lettre dans le panier. Quelle envie que j'avais de la revoir. Années ont passé, Je ne suis pas marié, j'ai une place de professeur à l'université. Et après tout ce temps, je me retrouve chez moi avec un jeune homme qui se dit être mon fils et le fils de Charlotte. Je ne sais pas si c'est vrai, mais quelque chose me force à le croire, ou plutôt à vouloir le croire. C'est peut-être l'âge, à 37 ans, l'on recherche à s'appuyer sur quelque chose. Le jour va se lever. Que vais-je faire de ce jeune homme qui dort dans mon salon? Je vais le renvoyer? C'est ce qu'il y aurait de plus sage à faire. Mais non, je veux tenter l'expérience. À 9h, Guillaume se réveille. Il est surpris par le cadre qui l'entoure. Les volets sont fermés, mais les persiennes font rentrer les rayons du soleil. Après s'être gratté la tête, mis ses idées en place, il se lève. Couché en slip, prend ses habits qui sont sur une chaise et s'habille. Fois habillé, il sort de la pièce. Du bruit à la cuisine, il y va. Et Marc qui prépare le petit déjeuner. Marc, en le voyant, lui dit bonjour.
Bonjour, répond Guillaume.
Entre. Il avance.
Tu as bien dormi?
Oui.
J'ai préparé du café, ça te va?
Oui. Ils s'assoivent tous les deux à table. Ils prennent leur petit déjeuner.
Que comptes-tu faire? Loger chez moi ou quoi?
Je ne sais pas, je n'ai pas d'argent, tout dépend de vous.
Écoute. Je ne sais pas si tu es vraiment mon fils, mais j'ai décidé de faire comme si tu l'étais. Puisque tu es sans ressources, tu vivras, si tu le veux, avec moi. Je t'aiderai à trouver du travail aussi. Qu'est-ce que tu en penses?
Je vous remercie, je suis très heureux de pouvoir vivre avec vous.
Marc, aidé de Guillaume, a transformé son bureau en chambre, en y mettant un lit, une place, une table de nuit. En attendant que Guillaume trouve du travail, il l'a embauché pour taper à la machine son manuscrit, car il écrit une histoire des religions dans le monde occidental. Se lève chaque matin à 8h. Il prend son petit déjeuner avec Marc à la cuisine. Puis, de 9 à 11, il tape à la machine le test qu'a écrit la veille Marc.
à 13, il a temps libre. La plupart du temps, il le passe allongé sur le divan du salon à rêvasser. À 13h, c'est le déjeuner qu'ils mangent ensemble. Puis, jusqu'à 18h, l'on travaille chacun dans son coin. Le soir, Guillaume sort un peu. Il va au cinéma ou dans un café, ou reste simplement dans la rue. Journée se passe ainsi. Le rapport se font lentement. Marc n'a pas l'habitude de vivre avec une personne. La plupart de ses journées, il les passait seul, sans une parole. Malgré ces longs silences qu'ont les deux hommes, l'on sent que s'introduit entre eux une certaine intimité. Marc a été agréablement surpris de voir que Guillaume acceptait de faire ce travail et qu'il le faisait consciencieusement. Va voir au cinéma West Side Story ou Comédia. Il est assis et à sa droite se trouve une jeune fille de 16-17 ans qu'il trouve charmante. Assise, elle semble plus jeune que lui. Elle a de beaux cheveux châtains, mi-longs et de beaux yeux bleus. Elle est habillée d'une robe beige toute simple. Durant tout le film, Guillaume ne peut s'empêcher de la regarder. Il la trouve délicieuse. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais chaque fois que je vois une fille, j'en tombe amoureux. Mais celle-là, alors. Sortie de la projection, comme il y a beaucoup de monde, ils sont obligés de se diriger vers la sortie en faisant presque du surplace. Ils sont l'un contre l'autre. Guillaume ne cesse de la regarder.
76.
Il faut absolument que je fasse quelque chose, sinon je risquerai de ne plus la revoir. Il la regarde, elle le regarde. Sa langue se délie. Vous avez aimé le film, mademoiselle ? Oui et non, je l'ai trouvé tout long. À part les danses, le reste est un peu mou. Vous êtes sévère. Vous voulez manger une glace avec moi ? Elle regarde sa montre. Oui, merci. Je m'appelle Guillaume. Et moi, c'est Christine. Sortis du cinéma, ils vont prendre une glace au café qui est à côté du Comédia. Il n'y a pas beaucoup de monde. Nous sommes mercredi et il est tard, 00h30. Tout en mangeant leur glace. Vous êtes étudiante ? Oui, et vous ? Moi, je suis secrétaire d'un homme de lettres. Lequel ? Marc Dupuis. L'universitaire ? Oui. Oh, il est formidable. J'aimerais plus tard pouvoir suivre ses cours. Comment est-il en privé ? Très simple et sympathique. Je sors très peu et vis entouré de ses livres. Comment l'avez-vous connu ? Je suis son fils. Et vous, vous vivez comment ? Moi, très simplement, je vis chez ma mère. Mes parents sont divorcés. Après avoir mangé leur glace, ils sortent du café. Je vous raccompagne, si vous voulez. Vous habitez où ? Rue Ney au 49. Nous prenons un taxi ? Non, surtout pas, j'aime mieux marcher à pied. Comme vous voudrez. Et ils se dirigent tous deux rue Ney. Seuls ma mère et moi depuis la mort accidentelle de père. Et bien voilà, nous sommes arrivés. Au revoir et merci. Attendez, nous ne reverrons pas. Tenez, après demain, Je vais à un concert à l'auditorium. Brahms, vous aimez ? Oui ? À partir de cette nuit-là, ils sortent souvent ensemble. Lac d'Aigbelette. Ils y vont en fin de semaine. La maison est un peu isolée. Elle est au bord du lac. Marc aime le soir ramer sur le lac. Soir, Marc, en montant dans la barque, a failli tomber à l'eau si Guillaume ne l'avait pas retenu. La soirée, après leur promenade en barque, ils sont tous deux assis à terre près de la cheminée. Le feu pétille. Tu sais, Guillaume, j'ai bien réfléchi. Je crois que tu es digne d'être mon fils. Je vais voir le notaire cette semaine. Je te ferai mon héritier. Guillaume lui met la tête sur son épaule et lui serre très fortement la main. Je vous en demande pas tant. Aimez-moi comme un père, cela suffira. Je le sais, mon petit, mais si un jour il m'arrivait quelque chose. Le lendemain, rentré à Lyon, Marc est allé chez le notaire. Coucher avec Christine, mais elle ne veut pas. Non, avec moi c'est le mariage ou rien. Bon, très bien, mais nous ne pouvons nous marier que dans quelques mois ou un an peut-être. Le samedi soir, ils prennent la barque pour faire le tour du lac. Il fait déjà nuit, c'est la pleine lune, l'endroit est désert. Oui, tu as raison, Guillaume. Une promenade en barque me fera du bien. Barque suit la berge, tout est calme. C'est Guillaume qui rame. Marc est assis en face de lui. Il contemple ce jeune homme que la Providence lui a donné comme fils. Après une demi-heure de rame, Guillaume s'arrête de ramer presque au milieu du lac. Le ciel est clair, l'eau est lisse et la lune se reflète dans l'eau. Marc somnole un peu. Ils ont bien mangé avant de partir. Guillaume se lève et s'approche de Marc. Marc lui sourit. Guillaume se penche vers lui, l'attrape au collet, le soulève. Mais qu'est-ce qui te prend ? Guillaume, d'un geste brusque, le pousse à l'eau. Que dans l'eau se débat comme il peut. Car il ne sait pas nager. Guillaume,
Guillaume. Je t'en supplie. Je ne sais pas nager. Aide-moi. Au secours. Au secours.
Guillaume saute à l'eau en renversant la barque. Mais lui sait nager. Va à la rencontre de Marc qui lui se débat comme un diable.
Guillaume. Guillaume.
Il s'approche de lui et lui enfonce la tête sous l'eau. Il voit les bras gesticuler à la surface. Puis, au bout d'un moment, plus rien. Lâche prise, le corps remonte à la surface. Guillaume regarde la barque qui est à la renverse.
Au secours! Au secours! Au secours! Au secours!
Plus tard, on est revenu le repêcher. Riverains ont entendu son appel et ont appelé les pompiers. Les gendarmes ont interrogé Guillaume pour savoir ce qui s'était passé. J'ai arrêté de ramer. Il est venu vers moi. Il a trébuché sur le cordage et la barque a chaviré. Nous sommes tombés tous les deux à l'eau. Lui ne savait pas nager. J'ai tout fait pour le sauver. Mais je n'ai pas pu. Il était trop lourd pour moi. Et il bougeait tout le temps. J'ai appelé au secours. Au secours. Mais vous êtes venu trop tard. Après enquête, on a su qui était la victime. Si la victime savait nager. Et qui était Guillaume. Après autopsie, on a conclu à une mort accidentelle. Six mois plus tard, Guillaume touche son héritage, le seul héritier de Marc. Ce soir, Guillaume reçoit un appel téléphonique. Oui, j'écoute.
C'est moi. Je crois que tout est en ordre. Qu'est-ce que l'on fait? Quand est-ce que l'on soit?
C'est moi qui ai tout fait le travail. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je vous donnerai un pourcentage.
Dis donc, quelle espèce de petit morveux. Sans mon idée, tu n'aurais rien pu faire. N'oublie pas que je sais que tu n'es pas son fils.
Cela n'a aucune importance. Il ne m'a pas reconnu comme son fils. Il m'a simplement mis sur son testament. Et il coupe la communication. Un mois plus tard, Guillaume et Christine se promènent au parc de la Tête d'Or. Et 10h du matin, nous sommes en automne, il y a un peu de brume. Guillaume lui prend la main. Plus verrons les bancs la semaine prochaine. C'est vrai, Guillaume? Il sourit et tombe. Christine, surprise, se penche vers lui. Il est à terre, couché sur le dos, les yeux ouverts, un trou rouge sur le front. Il sort de derrière un arbre un homme qui range son revolver dans la poche de sa veste et part d'un bon pas mais sans courir. C'est un vieux homme à cheveux blancs. C'est celui que Charlotte recevait. Guillaume est sorti du parc, il prend un taxi. Philomène le remercière. Là, il s'arrête devant un hôtel. Il y rentre.
un hôtel minable. Il monte au premier étage. Entre dans une chambre. Se trouve allongé sur le lit, en chemise de nuit, sale, défaite, le visage maigre, mal peigné, à terre, près du lit, des bouteilles de vin vides. L'homme s'approche du lit. Regarde la femme.
Tu es encore saoule, Charlotte. Je crois que nous allons être obligés de faire un petit voyage.
Et l'argent?
Il n'y aura pas d'argent. Le petit n'a pas su coopérer. Je l'ai puni.
Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Charlotte. Mise en scène, production, Junier Jean-Pierre.